Polar, la plus rock de la bande FM.
Bonsoir Jacques.
Bonsoir Corinne.
Voilà, au sommaire de cette émission, eh ben, on a une première chronique qu'on a intitulée « Sous les pavés, les pages ». Et il va y en avoir quelques milliers de pages, vous allez voir dans une minute. Et puis, dans la deuxième partie d'émission, trois livres, trois romans que l'on a, on va dire, un peu tirés du lot, qui sont trois très très bons romans des deux derniers mois. Voilà, donc les pavés, ben, le premier, c'est moi qui vais en parler. Ce premier pavé s'appelle « Tout doit disparaître ». Et ce pavé, il est un petit peu dans l'année des 70 ans de la série noire. C'est l'occasion de jeter, on va dire, un petit clin d'œil dans le rétroviseur. Oh, pas longtemps, mais quand même, une trentaine d'années en arrière.
Ça commence à faire, sur 70, ça fait presque la moitié.
Voilà, et d'aller chercher dans les tiroirs, mais d'aller chercher du très bon. Le titre de ce quarto, puisque plusieurs romans sont réunis dans ce pavé, on peut même dire cette anthologie, ça s'appelle « Tout doit disparaître ». Presque, ça laisserait à penser qu'on se débarrasse de quelques fonds de tiroirs. Eh bien, on ressort ce qui a fait les beaux jours du roman noir et de la série noire dans les années 80-90, avec cinq romans de Jean-Bernard Puy, dont certains titres sont d'ailleurs devenus introuvables. C'est l'occasion apparemment de les ressortir. Mais après, les destinées de l'édition sont assez impénétrables. Donc, je cite ces cinq romans. Nous avons brûlé une sainte, La pêche aux anges, RN86, L'homme à l'oreille croquée, Le cinéma de papa. On va juste un petit peu resituer ces romans. 10-15 ans plus tôt, Manchette avait fait sensation avec Laissez bronzer les cadavres, son premier roman édité en 71, d'ailleurs écrit à quatre mains avec Jean-Pierre Bastide, et puis très vite l'année suivante, Au dingo au château et Nada. Et très vite, on a ce qu'on a appelé le néopolar. Je dis ce qu'on a appelé, mais c'est ce qu'on appelle toujours. Et Jean-Bernard Puy va faire partie de cette mouvance, il va faire partie de cette quinzaine, vingtaine d'auteurs du néopolar dans les années 80-90. Comme on n'était pas nés à cette époque, n'est-ce pas Jacques, hein?
Pas tout à fait.
Pas tout à fait.
En tous les cas, voilà. On ne savait pas lire.
Je me suis tournée donc vers ma référence, le DILIPO, le dictionnaire des littératures policières de notre ami Claude Mesplède, pour ne pas dire de bêtises. En gros, le néopolar s'inscrit dans un roman noir social, un roman noir critique de la vie quotidienne, et puis un roman éminemment politique. Et la série noire, qui existe déjà depuis 35-40 ans, est là pour accueillir des auteurs comme Deninck, Jonquet et aussi donc Jean-Bernard Puy.
Car c'est bien de lui qui...
Voilà, revenons à ces cinq romans. Alors évidemment, on ne va pas les détailler. Sachez que d'abord, vous y trouverez, c'est du polar, mais on n'y trouvera pas de flics. Jean-Bernard Puy ne les aime pas beaucoup. Par contre, vous y croiserez un gitan plutôt attachant dans La pêche aux anges. Vous y croiserez Anne, un personnage, il faut lire cette espèce de road polar constitué de quatre anges, Anne et ses trois autres jeunes, qui sont quatre anges d'ailleurs plutôt dévastateurs dont nous avons brûlé une sainte. À mon avis, à mon humble avis, ce roman, au ton décalé et à la très très belle écriture, est un des meilleurs du romancier français. Quoique, on serait demain ou hier, je pourrais vous dire à peu près la même chose de L'homme à l'oreille croquée.
Ça, moi, je crois que c'est vers celui-là que je me tournerai, voilà. Peut-être.
Surtout que l'auteur nous montre dès les premières pages son côté férovipate. Ça, il y tient beaucoup à son côté férovipate, avec une scène, je me répète, d'anthologie, d'accident de chemin de fer. Mais, allez, deux jours plus tard, peut-être vous dirais-je que c'est RN86, mon préféré. C'est d'ailleurs un des romans les plus noirs, les plus sombres de Jean-Bernard Puy. Là, le personnage Léonard va partir à la recherche des secrets très très enfouis de sa femme qui est décédée quelques jours plus tôt dans un accident de voiture. C'est vraiment un formidable roman noir. Quant au cinéma de papa, eh bien, je vais vous avouer humblement que je n'ai pas lu.
Donc, pas encore lu.
Voilà, pas encore lu. Je vous promets de vous en reparler une autre fois. Au fil de ces romans...
Le cinéma de papa, ça fait aussi allusion à une des autres...
Une autre passion, il en a beaucoup, Jean-Bernard Puy.
Une des autres passions de Jean-Bernard Puy, qui était le cinéma, parce que, paraît-il, maintenant, il n'y va plus.
Oui, j'y crois pas, ça, mais c'est pas grave. Au fil de ces romans, comme j'avais commencé, donc, vous découvrirez l'humour. Là aussi, à un ton très, très décalé, un humour, je dirais, féroce, qui n'épargne rien, ni ses personnages, ni la vie, ni la société. Et ça, ça fait du bien. Et puis, vous arriverez peut-être à trouver les contraintes d'écriture de Jean-Bernard Puy. Jean-Bernard Puy, c'est un auteur oulipien. Oulipo, l'ouvroir des littératures potentielles. Par exemple, se donner la contrainte de faire 26 chapitres commençant de A à Z par la lettre de l'alphabet, de A, B, C, D, et ainsi de suite. Et puis, il y en a bien d'autres. Mais il va falloir les trouver, parce que en bon oulipien qui se respecte, Jean-Bernard Puy, il ne vous donne pas les codes et il ne vous dit pas la contrainte. À vous de les trouver. Donc, en gros, il y a deux solutions.
Ceci dit, on peut parfaitement apprécier le roman si on ne trouve pas la contrainte.
Tout à fait.
Mais par contre, si on la trouve, c'est d'autant plus...
C'est beaucoup mieux.
Réjouissant.
Jouissif, voilà. Ouais, on peut dire ça comme ça. En gros, pour 24,50€, parce que je n'avais pas encore dit le prix, 5 romans pour 24,50€, dans tous les cas, vous êtes gagnant. Soit vous êtes un fan de Jean-Bernard Puy, et ce sera trop chouette de glisser ce beau pavé dans votre bibliothèque, soit vous le connaissez peu et très peu, et entre autres, vous l'avez découvert il y a trop peu de temps pour connaître ses premiers romans, et ce sera juste un régal que de découvrir. Donc, je vais les reciter quand même. La pêche aux anges, je vais essayer de ne pas lire. La pêche aux anges, Nous avons brûlé une sainte, L'homme à l'oreille croquée, RN86 et Le cinéma de papa. Voilà, très rigolo. Tout Jean-Bernard Puy doit disparaître, mais non, il y a encore plein de romans à découvrir et à paraître.
Il doit et être c'est en... la... Et c'est dans la... collection série noire, donc gros format et avec le nouveau look de la 70e année qui est, faut le dire,
plutôt réussi.
Fort réussi.
Pour illustrer ces 5 romans, il fallait bien de la musique, pas vraiment de ces années, mais de la musique dont parle beaucoup Jean-Bernard Puy aussi dans certains de ses romans.
Et Jean-Bernard Puy aime le rock'n'roll, le rock, comme il dit, et donc on va en écouter, c'est presque du punk. C'est un groupe américain qui s'appelle Television. Ils n'ont pas fait beaucoup d'albums, mais celui-là, c'est leur premier, leur plus fameux. L'album s'appelle Marquee Moon, et la chanson qu'on va écouter, elle s'appelle aussi Marquee Moon.
I'm hesitating.
Revenir donc à la deuxième réédition de l'émission.
Encore, deuxième pavé, hein.
Encore un gros pavé, 4 romans, encore des romans pas vraiment récents, mais eux sont devenus vraiment très difficilement trouvables, sauf à de vils prix. Donc ce sont des romans de Heyerdahl, c'est réédité aux éditions Le Diable Vauvert, ça s'appelle Le Cycle de Sibione. Alors ces romans, ce ne sont pas des polars, quoique. Ce sont des romans qui ne sont pas des romans noirs.
Quoique.
Sont des romans qui ne sont pas des romans d'espionnage. Quoique. En fait, ce sont des romans de science-fiction.
Et des bons.
Ils datent des années 90, début 2000. 4 aventures, 4 enquêtes de la belle androïde Elia, E-L-Y-I-A, créée par Heyerdahl en 1992 dans la regrettée collection Fleuve Noir Anticipa. Tous sont donc regroupés en un seul volume, aux éditions Au Diable Vauvert, qui publie depuis un moment tous les romans d'Heyerdahl, avec un super look aussi de couverture. Alors ces 4 romans sont Sibione, Politane, Killzone Janiak et L'œil du Spad.
Il n'aime pas les journalistes hein, avec ces titres.
C'est sûr, mais bon, en même temps, ça se passe dans l'hyper, c'est de la science-fiction, donc c'est sûr qu'il n'y a pas de Johnny ou de Simone.
Marianne.
Ouais. Elia Nam, donc, c'est un agent secret, une agente secrète plutôt, de Ender. Ender, c'est la plus grosse compagnie d'assurance de la galaxie. Et elle en est le dernier recours en cas de litige, quand il faut payer la prime d'assurance ou quand il faut protéger l'assuré. Elia est très belle. Parfaite même, dit-on en quatrième de couverture. Et effectivement, c'est comme ça que le lecteur la voit, enfin du moins moi. Une superbe créature, féminine en diable, qui a donc tout ce qu'il faut, où il faut, et dans des proportions...
C'est rigolo, féminine en diable, Vauvert.
Oui,
enfin, bon,
exactement. Et qui a tout donc dans des proportions à faire rêver un peintre florentin. Mais Elia, c'est aussi une espionne dotée de redoutables qualités de guerrière. Donc, une espèce entre James Bond et Lara Croft, mais dans le siècle plus tard. Une autre de ses caractéristiques, c'est qu'elle n'est pas humaine, ni d'aucune autre souche des mille mondes qui constituent l'univers des romans d'Heyerdahl. C'est une cyborg, une entité manufacturée, capable de se régénérer après une blessure. Elle est, il le définit à un moment, une cybernétique biologique clone. Donc après, si on prend les premières lettres, cyber, biologique et les dernières de clone, ça fait Sibione. Elle est issue des caves Phoenix de la compagnie Ender. Donc Phoenix, forcément, c'est parce qu'il la régénère à chaque fois.
Qui renaît de ses cendres.
Exactement. Autre particularité, à chacune de ces missions, en fait, est une mission suicide. Elle meurt à la fin, même si elle n'en a pas toujours envie. Et elle est ensuite revitalisée pour l'aventure suivante. Toujours aussi jeune, toujours aussi belle, mais ayant tout ou presque oublié de ses précédentes enquêtes.
Mais c'est quand même un problème philosophique. Est-ce qu'un androïde peut mourir?
Ah, ben, en tous les cas, il y a même, de toute façon, si elle ne veut pas mourir, il y a une section spéciale de la compagnie Ender qui la suive et qui la détruise. Voilà, parce qu'en fait, elle ne meurt pas, effectivement, elle est détruite. Ah, oui. Heyerdahl évite donc les problèmes de vieillissement des personnages récurrents. Ça, au moins, il a réglé ce problème-là. Ça, toujours, elle a toujours sensiblement le même âge. Alors, je ne vais pas vous raconter les pitchs des différentes aventures. On est dans un monde de space opéra avec des véhicules qui se déplacent à des vitesses supersoniques, ou même plus, ou même dans l'hyperespace. Alors, il y a des fusils laser, des fusils ioniques. Il y aura aussi des bagarres, des trahisons, des compromissions. Ça, c'est pour le fun pur, la lecture divertissante. Mais on se rend compte que le monde que nous décrit Heyerdahl n'est finalement pas si éloigné que ça de celui dans lequel nous vivons maintenant. Il est presque plus proche que celui d'auteurs qu'on adore, qu'on aime beaucoup, comme Hammett, Thomson ou Chandler, dont le monde, finalement, a beaucoup évolué. Le monde de Sibion est un univers hyper libéral, où tous les services publics, y compris et même surtout celles de la sécurité, les flics et les militaires, ont été cédés à des firmes, des conglomérats privés. Les gouvernements, car il y en a encore, eux sont corrompus et subissent des lobbyings de la part des entreprises qui œuvrent, disent-elles, comme Sacha, qui œuvrent donc pour le bien de tous. Ça vous rappelle peut-être quelque chose, ça. On a parlé un petit peu.
On a dit que c'était des livres de science-fiction, voilà, malgré tout.
Exactement. Et pourtant, on en parlait dans un roman de Thomas Brunet, c'est pas si loin que ça. Heyerdahl décrit aussi un monde totalement informatisé où la puce qui sert à communiquer permet aussi de nous repérer, de nous tracer, bref, de nous suivre, de nous espionner à longueur de temps. Et c'était en 1992, c'était plutôt prophétique parce qu'on n'avait pas encore de téléphone portable aussi sophistiqué. Dans le monde d'Heyerdahl, il y a aussi des rebelles. Heyerdahl aime bien les rebelles, ceux qui luttent contre le pouvoir établi, ceux qui ne veulent pas se laisser dominer par le pouvoir du fric. Des rebelles qui, évidemment, n'ont pas la partie facile, mais que Alia, qui est une espionne, mais qui est aussi une justicière révoltée, pour un cyborg, c'est...
Mais bon, mais décidément, elle a vraiment des caractéristiques étranges.
Ah ouais, mais c'est l'avantage, c'est bien quand tu es auteur, tu peux créer tes héros comme tu veux. Et bon, Alia va parfois tenter au moins de les aider. C'est donc avec plus que de l'enthousiasme que je vous conseille ces romans. Et comme l'avantage avec l'héroïne qui meurt à la fin et qui reviennent au roman suivant, c'est que même après plus de 10 ans après la dernière enquête d'Alia, on peut la faire revenir pour une nouvelle aventure. Et on murmure que Sibion va bientôt revenir sous la plume d'Heyerdahl. On en connaît même le titre, Quack. Nul doute qu'on vous en reparlera dans nos ondes noires.
On va vous laisser quelques instants et on revient dans la deuxième partie.